Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Parcours avec Isabelle Sayah-Baudis. Qui êtes-vous, Isabelle Sayah-Baudis ?
Je suis très contente de vous retrouver parce qu'avec vous, c'est toujours très, très fluide et très doux. Enfin, sauf si je bredouille. Parcours, ça fait déjà un peu peur parce que parcours, ça veut dire qu'on a un grand chemin derrière soi. Donc, c'est un peu effrayant. Qui je suis ? Je pense que je suis la somme de pays, déjà, parce que je suis née en Algérie et j'ai beaucoup plus vécu en France, mais je garde en moi cette partie très, très forte, très violente, aussi de l'Algérie, très éclairante aussi. Et voilà, j'essaye de, comme on disait avant l'antenne, j'essaye d'avancer.
Vous êtes née en Algérie ?
Je suis née en Algérie. Je suis née à Alger, parce que je suis née de mère pied-noir. Donc parfois, je dis que je suis deux fois algérienne, parce que ma mère était pied-noir, mais pied-noir très algérienne. Elle était très camusienne. Elle sentait que l'Algérie était se creuser des races qui pouvaient faire une nouvelle race, et elle y croyait beaucoup. Et donc, elle l'a prouvé dans sa vie, puisqu'elle a épousé mon père pendant la guerre d'Algérie. Et donc, je suis née pendant la guerre d'Algérie, donc d'une mère pied-noir et d'un père de Chlef, de la Mitidja. Donc, une mère pied-noir et un père algérien.
Que faisaient vos parents ?
Alors, ma mère était mère au foyer. Et puis après, avec les difficultés de la vie, elle a travaillé à Air France. Donc, elle s'occupait des gens qui fuyaient l'Algérie, quoi. En 62, quoi, à l'indépendance, elle a aidé beaucoup de pieds noirs à partir. Et mon père, sur son passeport, il a écrit « Fella ». Il était propriétaire terrien. Et je suis issue d'une famille maraboutique. Donc, si vous voulez, je suis issue d'une famille où il y a une zaouïa, où la... Le soufisme et la religion est présente tout en étant très soufi, c'est-à-dire très, très pragmatique.
Comment les deux familles, famille pied-noir, famille musulmane algérienne, ont-elles
vécu la chose vécu très mariage? Très mal, extrêmement mal. Je pense qu'ils se sont mariés, ils m'ont raconté qu'ils s'étaient mariés tous les deux. En plus, donc, il faut replacer dans le contexte de l'époque, quoi. Ils se sont mariés pendant la guerre, donc ultime provocation, quoi. Déjà, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de mariages mixtes en Algérie. Mais là, c'était en plus pendant la guerre, donc où tous les rapports étaient exacerbés. Donc, évidemment, ils se sont mariés tout seuls. Je pense qu'ils ont eu une véritable passion amoureuse, surtout que ma mère, en plus, était déjà mariée. Et il y avait 4 enfants. Donc, ma mère était mariée avec 4 enfants, un pied noir. Elle avait suivi une vie assez classique en épousant quelqu'un de son milieu. Et donc, elle a divorcé de son premier mari pour épouser mon père. Donc, scandale supplémentaire. Donc, si vous voulez, je pense que ça doit influencer. Enfin, je pense souvent à leur courage, parce que je me dis que c'est courageux d'aller à l'encontre de sa famille, de son pays, de la politique, puisque malheureusement à cette époque-là, tout était lié. Donc moi j'essaye, quand je suis un peu découragée, je me dis, j'ai pas le droit d'être découragée.
Ils sont allés en France au moment de l'indépendance ?
Pas du tout, pas du tout. C'est bien plus compliqué que ça, puisque mon grand-père faisait de la politique, mon grand-père arabe, mon grand-père algérien faisait de la politique. Et mon père est rentré dans le FLN, donc il a dû fuir l'Algérie puisqu'il était condamné à mort par les Français. Et donc on s'est retrouvé avec ma mère et ma sœur en résidence surveillée puisque mon père avait fui. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et puis l'indépendance est arrivée, donc nous on n'avait pas de raison de partir avec les pieds noirs puisqu'on était pieds noirs et algériens. Donc, on est resté en Algérie jusqu'en 68. et on est rentré en France pour des raisons de sécurité, puisque ce beau couple mixte a malheureusement explosé à cause de la politique et vraiment à cause du climat politique, je crois, et donc de la fuite de mon père en Suisse. Et je crois que ma mère a voulu rentrer en France parce qu'une femme vivant seule en Algérie avec deux petites filles, elle avait peur pour notre sécurité. On est rentré pour des raisons de sécurité, quoi.
Isabelle Sayer-Baudis, vous nous racontez une histoire très compliquée, mais comment vous l'avez vécue enfant ?
Bah, je l'ai vécue douloureusement parce que c'est quand même assez douloureux tout ce que je vous raconte.
Vous étiez au courant de tout ce qui se passait ?
Ben non, mais enfin, quand on a des militaires qui prennent votre maison et qui vous mettent dans une petite chambre, on comprend vite les choses, quoi. Quand on entend la guerre, on comprend les choses, quoi. J'avais pas, évidemment, quand on grandit dans la guerre, on comprend des choses. Et je comprenais aussi que moi, j'étais des deux côtés. C'était compliqué. Je comprenais ça aussi. J'ai certainement mieux vécu les choses à cause du courage de ma mère et grâce aussi à ma sœur, parce qu'on était deux. Donc évidemment, c'est plus facile à deux parce qu'on a un vis-à-vis. Je pense que seule, je l'aurais très mal vécu. À deux, je pense que ma force, ça a été aussi ça, d'avoir une sœur.
Le fait d'arriver en France, c'était une coupure brutale avec l'Algérie ?
Atroce, parce que je suis arrivée en France à Agen, donc j'ai fait Alger-Agen, et donc comme c'était difficile pour ma mère, j'ai été pensionnaire. Donc malgré les difficultés algériennes de l'époque, évidemment, l'Algérie pour moi, ça, dans la pension, ça représentait la liberté, ça représentait le soleil, la lumière, ce que j'aimais, et ça a été dur. Et puis, je pense que j'ai tenu grâce à ma sœur. Et puis, parce que, en fait, j'avais pas vraiment le choix. Et je retournais en Algérie, donc là, pendant les vacances, puisque mes parents étant divorcés, je retournais. Donc là, il y avait vraiment eu la cassure des familles. Donc, je vivais avec ma mère en France et je retournais donc, chez mon père, au bled, donc dans la ferme, pendant les vacances d'été. Donc là, il y avait vraiment une autre Algérie que j'ai connue aussi, l'Algérie de ma famille algérienne.
Alors c'était quoi cette autre Algérie que vous avez connue ?
Bah, c'était une Algérie, moi j'habitais à Alger, donc c'était la ruralité, c'était les traditions, c'était des familles qui vivaient encore avec des rites où le père avait, c'était un genre de patriarcat encore. Bon, évidemment atténué, mais où je sentais que c'était la terre de mes aïeux, c'était le cimetière familial, c'était la Zaouïa, c'était j'étais rattachée au côté plus algérien, plus rural et plus spirituel aussi, tout en me disant, toi tu n'auras pas le droit d'être enterrée dans ce cimetière musulman, puisque tu es mixte, tu es moitié. Donc, si vous voulez, je sentais les deux et je sentais ces cassures, quoi, aussi.
Vous y êtes retournée chaque été, régulièrement ?
Oui, j'y suis retournée jusqu'à ma majorité. Et puis après, j'ai un peu coupé avec l'Algérie parce que l'Algérie était un peu difficile pour les libertés. Et quand on a 18 ans, on pense à la liberté. Donc, j'ai un peu arrêté l'Algérie à 18 ans.
Et puis c'est revenu plus tard.
Et puis c'est revenu plus tard.
On va en parler dans la suite de cette émission. Vous vous sentez à la fois française et à la fois algérienne ?
Oui, je me sens les deux. Bon, alors évidemment, j'ai beaucoup plus vécu en France. Donc je suis éminemment attachée à la laïcité, à la liberté. Mais je pense que tout mon ressenti ou mon cœur ou mes rêves sont algériens.
Vos rêves sont algériens ? Les couleurs, les parfums,
mes goûts, mon enfance, quoi. Mon enfance est algérienne, quoi. J'ai réussi à trouver un équilibre entre ce mélange différent et cette énorme richesse qu'on peut avoir ici aujourd'hui et que je mesure peut-être plus que quelqu'un qui est natif de France, quoi, qui n'a pas connu de rupture. Si vous voulez, je suis toujours émerveillée par la liberté, par l'égalité, par... c'est quelque chose qui m'émerveille toujours, et je me dis toujours quelle chance nous avons, quoi.
Vous êtes aujourd'hui éditrice, vous êtes une écrivaine également, vous avez publié de nombreux ouvrages. Quels sont les premiers livres qui vous ont marqué ?
Alors, les livres qui ont compté pour moi, ma mère était une grande lectrice. Et évidemment, elle avait un rayon de livres interdits, dont je me suis jetée sur les livres interdits. Donc, elle avait les Mille et une nuits. Après, j'ai beaucoup retravaillé dessus. Et ma mère, qui avait cette volonté de nous apprendre les deux choses, nous a quand même mis comme livre à lire la Bible et le Coran. Donc, elle nous a mis la barre très, très haute et elle nous a mis dans une école religieuse. Et donc, dans les choses très intelligentes qu'ont pu faire mes parents, c'est qu'ils nous ont dit, il faut que vous appreniez les deux religions, puisque vous êtes aussi issus de deux religions, et que vous choisirez. Donc, j'ai quand même beaucoup baigné, parce qu'il me semblait que j'allais devoir choisir. Donc, j'ai beaucoup baigné dans... Les textes sacrés, beaucoup de mythologie aussi. Bon, donc on nous a mis une pression sur il faudra faire un choix. Donc on nous a mis une pression dans ce côté-là.
Et ce choix, vous l'avez fait ?
Non, parce que je l'ai pas fait, mais je trouve que si vous voulez quand on liait tout ça, je pense qu'il y a des choses tellement semblables, puis il y a des chemins différents. Je sens qu'on m'a obligé ou qu'on m'a fait naître en moi un besoin de spiritualité. Évidemment, je trouve que le côté musulman est beaucoup plus simple, dont j'aime cette ligne directe de l'islam qui me plaît infiniment et cet universalisme que m'ont appris le jardinier, que j'ai senti dans la rue, que j'ai senti chez tous les gens. Quoi, cette spiritualité qui habite tout le monde, ça m'a beaucoup marquée. Et après, la Bible, ça m'a appris à apprendre une autre religion, mais ça m'a forgé ou ça m'a obligé à m'orienter vers une spiritualité, quoi.
Vous êtes devenue journaliste ?
Oui, je suis devenue journaliste. En fait, c'était le métier que je voulais faire et j'ai eu la chance de pouvoir... C'était vraiment le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Et je pensais que c'était bien de pouvoir chercher, raconter, décrypter, être curieuse. J'étais curieuse. Et puis, en fait, j'ai changé de métier grâce à Dominique.
Dominique Baudis,
qui est mon mari, parce qu'il m'a demandé de le suivre dans une aventure politique où j'ai dû arrêter. Et donc, c'est là où j'ai changé de métier en me disant... Je vais passer de journaliste à auteur. Et je me suis dit, comme j'étais nomade entre Toulouse et Paris, je me suis dit, je vais travailler à long terme. Et donc, je vais me lancer dans un livre. Et j'ai fait Oum Kalsoum. J'ai travaillé longtemps sur Oum Kalsoum.
Alors, parlons d'Oum Kalsoum, un livre important pour vous, mais aussi pour le public francophone, puisque avant ce livre... il y avait très peu de livres, il n'y avait pas.
Voilà. Il n'y en avait pas.
Il n'y avait pas de livres en français sur Oum Kalsoum.
Il n'y en avait pas. Alors c'est Dominique qui m'a orientée vers ce livre, parce qu'il voyait que j'avais envie de me lancer dans un travail long. Et lui avait suivi les funérailles d'Oum Kalsoum. Il me disait, c'est absolument incroyable, c'était une marée humaine qui s'est emparée d'un cercueil, d'une diva, tu devrais creuser et tout. Et donc je suis partie en Égypte et Oum Kalsoum m'a servi dans plein de domaines parce que évidemment, comme Oum Kalsoum a été dans tous les domaines, dans la chanson, dans la politique, dans le féminisme, dans le monde arabe, moi en fait j'ai été cherchée partout. Oum Kalsoum m'a fait ma première psychanalyse parce que j'ai été fouillée dans ce passé dont je connaissais des choses, mais dont j'ignorais beaucoup. Et donc, elle m'a fait chercher dans tous les domaines. Ça a été un travail est extrêmement utile aussi personnellement. Parce que je suis retournée donc dans des choses que je connaissais, mais qui m'ont ouvert des portes infinies, quoi. Donc ce livre a été d'un grand secours. Et puis donc je suis allée à Toulouse aussi, donc avec Oum Kalsoum. Donc c'était un autre chemin, quoi. J'ai pris un autre chemin en partant à Toulouse, tout en restant dans le livre ou dans l'écrit. Et j'étais très contente de faire ce travail.
Vous avez compris pourquoi Oum Kalsoum était unique dans le monde arabe ?
Ben oui, parce que c'est ce que je vous disais, quoi. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais juste paniquée devant l'étendue de ses talents ou des chemins qu'elle avait menés, en plus du conte de fées. Donc Oum Kalsoum, elle a travaillé le chant, mais pas que le chant. Elle a travaillé, puisqu'elle a travaillé le chant populaire, le chant patriotique. Elle s'est beaucoup investie dans la vie politique, donc l'histoire de l'Égypte. Elle s'est beaucoup investie dans le féminisme égyptien, qu'on a oublié, mais qui était un mouvement très, très récurrent dans les années 20. Elle a travaillé dans toutes les nouvelles techniques. Donc si vous voulez, Oum Kalsoum, c'est tout ça à la fois, quoi, dans le cinéma. Elle a inauguré toutes les nouvelles techniques, la nouvelle politique. Elle a inauguré la notion de monde arabe avec Nasser. Donc si vous voulez tout ça, personne ne l'a fait. Elle n'était pas que chanteuse, évidemment. Tous ses métiers ou tous ses dons ou tout ça s'ajoutait. Évidemment, elle est unique. Elle est unique pour ça, quoi.
Et Oum Kalsoum a donc été, pour vous, le début d'une autre histoire, pour vous-même, personnellement.
Oui, 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 je pense que ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai travaillé donc sur le monde où je venais. Ça m'a fait du bien. J'ai été plus à fond. Ma mère était un peu furieuse parce qu'elle trouvait que je m'investissais trop dans ce monde qui était que la moitié de mon monde. Donc pour lui faire plaisir, après j'ai fait un livre sur les pieds noirs. Parce qu'elle trouvait que j'étais tellement investie dans ce monde qui me comblait, quoi. En fait, ce que j'avais ressenti, je le retrouvais dans les écrits. Je sentais une jalousie chez elle. Pour contrecarrer, j'ai fait un livre sur les pieds noirs.
C'est un beau geste d'amour.
Oui, oui, c'est un beau geste d'amour. Et en plus, je trouve que les livres, pour moi, c'est comme un cadeau qu'on peut faire à quelqu'un ou à quelque chose qui vous a donné. Pour moi, je fais des livres pour dire merci. Je pense que je fais des livres pour dire merci.
Pour vous, chaque livre est absolument nécessaire.
Oui. Alors là, je suis vraiment dans la tradition du livre, de la sacralité du livre. Je pense qu'un livre est utile et beau. Alors j'aime beaucoup les beaux livres aussi. J'ai beaucoup aussi travaillé dans les beaux livres parce que je pense que si on rajoute l'esthétisme, les mille et une nuits par exemple, j'ai fait un ouvrage sur les mille et une nuits en choisissant les contes érotiques des mille et une nuits pour expliquer que l'érotisme existait dans la civilisation musulmane et que j'ai découvert que Vandongen avait illustré tous ses contes. Donc j'ai mélangé les contes des mille et une nuits avec Vandongen. J'ai ressorti une vie de Muhammad qui a été faite par Dinet et qui est un livre illustré parce que je trouve que j'adore les textes, j'adore l'écrit et je me dis que si on peut rajouter aussi la dimension esthétique, ça sert aussi, quoi. Ça touche un autre public. Vous savez, les Anglais disent un gift book. Je trouve que c'est vraiment un cadeau, quoi. Je trouve qu'un beau livre, ça dure plus longtemps qu'un bouquet de fleurs.
Parcours avec Isabelle Sayah Bodis. On se retrouve dans quelques instants.
Parcours sur Radio Orient.
Oh. Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours avec Isabelle Sayah Baudis. Est-ce qu'on peut parler de votre rencontre avec Dominique Baudis, qui a véritablement changé votre vie?
Oui, il a changé ma vie. Donc, on était tous les deux journalistes. On s'est rencontrés à Paris. On était tous les deux donc parisiens journalistes. Je travaillais au Figaro. Je m'occupais de la rubrique télévision. Je l'ai rencontré. On a eu une histoire très... On a découvert au fur et à mesure combien on aimait les mêmes choses, combien on aimait la politique, combien pour nous la politique c'était la liberté des hommes, combien on aimait l'Orient. On essaye souvent de trouver dans l'autre des points en commun, et je crois que plus on avançait, plus on sentait que... on avait les mêmes points d'intérêt, quoi.
Il y avait notamment l'amour du monde arabe, puisque Dominique Baudis a été correspondant au Liban.
Il y avait l'amour du monde arabe qui l'a beaucoup, beaucoup façonné. Je pense que c'était un aussi bon homme politique grâce à son séjour au Liban. Je pense que le Liban lui a appris la civilisation arabe, mais lui a aussi appris le pragmatisme. Et que je pense que quand on vit 5 ans au Liban, on ne peut plus dire il y a le bon et le méchant. Et je pense que Dominique, dans toute sa vie politique, c'était sa leçon maîtresse du Liban, c'est qu'il n'y avait jamais le bon et le méchant, quoi. Et c'était cet amour du monde arabe aussi.
Parfois, les hommes politiques sont décriés par les Français. Vous dites...
Moi, je défends.
Vous défendez la politique, ça peut être aussi quelque chose de très noble.
Ah, mais la politique, pour moi, c'est une des choses les plus nobles qui existent. Je pense que c'est un... Déjà, c'est pas un métier, c'est une mission. On est au service des autres. J'ai aimé être à côté d'un homme qui servait les autres. Et je pense que les gens n'ont pas souvent cette notion que les hommes politiques sont au service des gens et qu'un homme politique s'occupe de tout le monde, toute la journée. Et moi, dans mon expérience de femme d'homme politique, je me suis rendu compte aussi de quelque chose qui peut paraître très bête, combien les hommes politiques n'avaient jamais de retour positif. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire à un homme politique « je suis content ». C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de contentement. C'est-à-dire qu'un homme politique vit toute sa vie avec des revendications, des demandes, des mécontentements, et que c'est son métier. C'est d'écouter les plaintes, les manques des autres. Et qu'il essaye de parer à ça, et il essaye de servir, d'arranger. Il travaille au bien public. Donc je pense qu'il n'y a pas plus noble que ce métier. Et j'ai été très contente de pouvoir être aux côtés de quelqu'un qui servait les autres.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez habité à Toulouse, dont Dominique Baudis était le maire?
Alors ce qui m'a le plus marqué, là on revient un peu en Algérie, c'est que en fait j'ai eu un peu peur. Et en fait, j'ai eu un peu peur aussi de mes origines. Je m'appelais Saya et je me disais, en étant la fiancée du maire et en s'appelant Saya, il faut que je sois inattaquable. Donc, je me suis fait un genre de carapace d'obligation d'être mieux que si je m'étais appelée Dupont. Parce que je savais que j'engageais aussi mon nom et que j'engageais aussi mon nom arabe, et que je devais aussi porter ça et servir ça. Je marchais sur des œufs, quoi. Je me disais que je n'avais pas le droit d'être attaquable. Donc c'était évidemment très inconfortable, quoi. Pour tout vous dire, c'était très inconfortable. Alors, Dieu merci, je travaillais aussi avec Dominique. J'étais son assistante parlementaire et j'étais... Je pense une bonne assistante parlementaire. Ça, c'est un petit pic aux gens qui pensent que les femmes qui travaillent avec des hommes politiques sont des emplois fictifs. Moi, je pense que j'étais pas du tout un emploi fictif. Donc, je pense que la pression est telle que j'aurais peut-être pas supporté si j'avais vécu à temps complètement complet à Toulouse. Parce que c'est très dur, la vie d'un homme public, surtout d'un maire. Puisque un maire, il est alpagué...
Toute la journée. Et le soir aussi.
Et le soir.
Le dimanche, quand il va à la boulangerie.
Et le dimanche, et tout le temps. Donc, si vous voulez, c'est pas, y a un côté qui est inhumain. Donc, en fait, comme il était parlementaire, je partais toutes les semaines avec lui. Et je pense que c'était notre respiration à tous les deux. Et qu'en fait, on voyait mieux les choses aussi en partant. Vous savez, les choses qu'on voit mieux de loin, je pense que c'était notre cas.
Alors, votre vie a été marquée aussi par une histoire très douloureuse, la calomnie, les accusations délirantes avec la complicité de certains médias, un cauchemar qui a duré 18 mois. Qu'est-ce qu'on apprend sur la vie à ce moment-là? Comment on se reconstruit?
Qu'est-ce qu'on apprend sur la vie? Alors, vous savez, Dominique a couvert le début de la guerre. Et moi, j'ai grandi dans la guerre. Donc, évidemment, tous les deux, on a pensé à la guerre. Et donc, on a pensé que dans la guerre, on était obligé de se battre. Et je pense que ce qui nous a sauvés, c'est que tous les deux, on a eu le même réflexe. On a dit, on va se battre pour nous, pour nos enfants, pour la ville. Parce qu'on pensait aussi que cette histoire salissait toute la ville. On s'est battu. Donc, je pense que ce qui nous a sauvés, c'est ça. Que Dominique a écrit en même temps, donc on était avec des carnets toute la journée, on notait, on redevenait journaliste, on notait tout, on écrivait tout. Et aussi par l'amour des gens. Et je pense que c'est les gens, bon je pense qu'il y a eu quelques salopards qui nous ont traînés dans la boue, et des milliers de gens qui nous ont sauvés. Et je pense...
Vous avez reçu des courriers, des messages?
Pas que des courriers, des messages, des sourires, des gestes, de l'amour. De l'amour. Et donc je pense que c'est ce qui nous a fait tenir. Et donc je pense que voilà. Bon, on a trouvé que c'était très long, évidemment. On avait peur pour nos enfants. Mais je pense qu'on s'est... On s'est battu pour nous et aussi en pensant aux autres, quoi. Parce que c'est tombé malheureusement sur nous, mais ça peut tomber sur les autres. Et je pense que on peut pas tenir si on ne se bat pas, si on ne réagit pas. Donc nous, on a essayé de réagir dans tous les domaines, mais les gens, la majorité, l'extrême majorité, a été absolument formidable avec nous et nous a soutenus. Ce que je voulais ajouter, c'est que malheureusement, on a été les premiers de cette horrible lignée, c'est-à-dire où on accuse des gens, on les traîne dans la boue et après, ils doivent se débrouiller comme ils peuvent. Mais il y a quelque chose que je remarque, c'est que les gens qui sont salis, en général, s'expriment publiquement. Et que j'ai appris que ça, dans les écoles de presse, que ça s'appelait la jurisprudence Bodice. Donc ça me fait assez plaisir de savoir que quand on se fait attaquer, on a aussi le droit de crier.
Alors vous êtes devenue éditrice, Isabelle Sayard Bodice. Est-ce que c'est un projet dont vous avez eu le temps de parler avec Dominique Bodice, qui est décédé en avril 2014?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on est venu, on a quitté Toulouse, on est venu s'installer à Paris... Moi, je continuais de faire des livres, mais parfois, je me rendais compte que j'allais dans des domaines que les éditeurs classiques trouvaient trop pointus. Par exemple, j'avais envie de faire un livre sur Halage, le grand soufi qui a écrit des livres absolument sublimes avec un calligraphe et de mélanger donc la calligraphie à ses phrases d'amour absolu. Et là, les éditeurs me disaient... Vous allez trop loin, c'est trop difficile et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je risque de monter ma maison d'édition? Surtout que je me suis rendu compte que moi, le monde que j'aime, cet Orient que j'aime, si décrié, si malmené, si abîmée. Il y a tellement de belles choses que j'ai vécues, que j'ai reçues et que, qui ne sont pas montrées. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas une maison qui raconte tous ces Orients que je connais, que j'aime et qui sont positifs, qui sont belles. Donc je me suis dit, mais allons-y. Donc je me suis dit, j'en ai parlé à Dominique, qui se moquait un peu de moi, mais il se moquait souvent de moi pour me faire avancer. Et j'avoue qu'il était très content parce qu'il a vu mes premiers livres et il était très content, par exemple, de voir que déjà je m'adaptais. On a parlé d'adaptabilité, que je rechangeais de métier. En fait, je restais. Je trouve que c'est des métiers très voisins, mais que je refaisais des livres et il était content que je rechange de vie. Et je pense que dans les choses qu'il a pu m'apprendre aussi, c'est que lui, il a dû avoir 10 fonctions différentes. Et je pense qu'il aimait changer de vie. Et je pense que moi aussi, j'aime changer de vie. Sauf quand il est parti. Celle-là, je n'ai pas aimé ce changement de vie. Mais autrement, je trouve que de changer de vie, c'est avancer aussi, quoi. C'est se placer différemment. Et puis, c'est donc une passion. Et donc là, j'ai une maison d'édition où si j'ai un sujet qui me passionne, je me dis je peux travailler, je peux chercher, je peux montrer. Et je me dis que ça sert aussi, surtout aujourd'hui, que je me dis que face à un islam si abîmé, je pense que d'avoir quelque chose qui vous montre qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que des extrémistes, il n'y a pas que des assassins. Donc il y a une formidable énergie, des formidables artistes, des formidables œuvres. Et si je peux les montrer, je me dis j'ai mis un petit caillou sur le chemin.
Parmi les auteurs que vous avez publiés, Isabelle Saya-Baudis, il y a André Miquel. C'est grâce à vous qu'on a pu l'inviter sur Radio Orient. C'est un traducteur des Mille et Une Nuits, professeur au Collège de France.
André Miquel, c'est l'orientaliste dans tout ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire que c'est un homme, un Occitan, qui s'est dit « je vais consacrer ma vie à chercher de l'autre côté de la Méditerranée pour savoir si nous sommes pareils ». Et en fait, c'est formidable parce qu'il a passé 50 ans de sa vie à traduire les géographes arabes, les grands poètes arabes, les grandes œuvres arabes, les Mille et Une Nuits, le Kalila Wadimna. Et en fin de compte, il vous dit aujourd'hui à 89 ans, il vous dit, mais vous savez, on est tous pareils. Et le but de la vie, le but des hommes, c'est partout le même. Mais il a laissé, donc, il a mis en lumière des œuvres fondamentales, comme ce Kalila Wadimna, qui sont des contes animaliers, où ce sont deux chacals qui apprennent la sagesse au roi. Donc c'est un livre de sagesse. Et La Fontaine dit s'être beaucoup inspirée de ses contes. Ce sont des œuvres avec une morale très libre, très, très initiatique. Et puis il a traduit ses Mille et Une Nuits. Et moi j'ai la chance énorme d'avoir pu travailler avec lui. Chaque fois que je sors d'une séance de travail de chez André Miquel, je lui dis, donc il me dit, vous dites des bêtises, Isabelle, je me sens plus légère. Il semble, vous savez, que c'est un homme qui a compris la complexité du monde et qui vous dit, mais en fait, quand il vous dit, j'ai été cherché partout et tout est pareil, ça vous rassure. Donc vous sortez et il vous dit, mais lisez ça. Vous avez bien lu Majnun Leïla, vous connaissez, il vous cite, donc il va de La Fontaine à Kalila Wadimna, il vous cite les plus grands de ces deux civilisations qui n'ont pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'antagonisme en fait. Et quand vous sortez d'une séance comme ça, vous vous dites, mais tout est simple. Donc vous avancez plus sereinement.
Autre belle rencontre, Isabelle Saya-Baudis, Ghaleb Bencher, qui est à la fois physicien et islamologue, présentateur des émissions sur l'islam à France Culture et à France Télévisions. Il a publié « Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes » dans la collection que vous dirigez, aux éditions Jean-Claude Lattès, puisque Orient Éditions existe à la fois sous votre marque, et puis c'est une collection chez Jean-Claude Lattès.
Voilà. Donc, Khaled Benchir, évidemment, je le connaissais. Et ça, c'est un projet Lattès, et donc avec une collection Orient. C'est un livre pour éclairer, très utile aujourd'hui. C'est-à-dire, là où il y a tellement de questionnements sur l'islam et sur le positionnement de l'islam vis-à-vis de la République, Khaled est un homme, est un théologien, est un scientifique. Donc c'est un théologien qui vous dit, voilà, il y a le dogme, il y a la spiritualité, mais il y a aussi la loi des hommes. Et rien n'est incompatible. Il y a la loi de Dieu, et il y a la loi des hommes, et que tout ça peut aller en parallèle. C'est un message qu'on n'entend pas assez, très très utile aujourd'hui. Donc il a fait ce livre très, très éclairant, en démontant aussi combien les affreux se servent mal du texte sacré pour arriver à des fins très politiques. Donc en fait, il vous dit, si on arrive à garder le spirituel pour sa foi, pour son privé, pour son âme, pour son salut, et la loi des hommes pour la vie des hommes, tout devient plus simple et qu'il n'y a aucune incompatibilité.
Isabelle Sayah-Bodis, autre livre publié chez Orient Éditions, Talisman d'Elbouni, vous pouvez nous en parler ?
Ah oui, alors Talisman, ça c'est un... En fait, j'ai fait ce livre pour rendre un hommage à mon grand-père qui, dans sa vieillesse, m'avait donné un carré magique. Donc, quand je partais de chez moi, il m'avait donné un carré magique avec de la terre de chez nous, en me disant « garde-le ». Et évidemment, je l'ai perdu. Après, je me suis penchée sur l'histoire des carrés magiques. Je me suis rendu compte que c'était un Algérien qui avait posé cette science des carrés magiques. Et alors aussi, là, qui est très jolie, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, et en fait, pour moi, c'est cette définition de l'islam que j'aime. C'est que tout correspond à tout. C'est que ciel et terre sont liés. C'est que les lettres correspondent à des jours, correspondent à des chiffres. Et que tout ça se retrouve dans des carrés magiques, qui est donc l'œuvre d'un savant du Xe siècle, d'un savant algérien, d'un savant bonnois. Et en plus, c'est très esthétique. J'ai fait ce livre avec le grand savant de mystique musulmane qui s'appelle Pierre Lory et Jean-Charles Coulon, qui sont enseignants ici, à l'École des hautes études. Et donc, je l'ai fait pour un coup de chapeau pour mon grand-père aussi, pour montrer que si vous voulez... Cette science qui est presque une science mathématique, mais une science universelle, et qui est aussi dans la très belle histoire, c'est que ce livre est très populaire parce que les femmes, en fait, gardent ces carrés, ce que m'avait donné mon grand-père, pour garder, et les portent. Donc, ça, et j'ai fait un petit livre aussi pour porter. Donc, c'est évidemment, ça s'appelle Talisman, puisque c'est quelque chose qu'on doit porter, quoi.
Autre livre, Je suis arabe, mais je me soigne. Alors là, c'est le dessinateur et humoriste Lotfi Ben Sassi, qui est un fidèle de votre maison d'édition.
Oui. Alors, j'aime beaucoup la Tunisie, qui est mon pays où je vais régulièrement et où je me sens extrêmement bien. Et un pays du monde arabe qui avance comme on souhaiterait que les autres avancent, c'est-à-dire où les femmes ont autant de droits, où la Constitution a coupé le spirituel et le temporel, où donc on fait des efforts pour faire rentrer ce monde arabe et musulman dans la modernité. Et je me dis que dans ce monde aussi, qui souffre, je pense qu'il se sauve aussi souvent par l'humour, par la dérision. C'est une notion en plus qu'on n'a pas beaucoup à l'esprit ici. Et Lotfi est un caricaturiste, journaliste qui publie tous les jours à la une de la presse et qui se moque, en fait, qui se moque pour faire toucher du doigt, pour faire avancer les choses. Et donc, évidemment, il a recensé d'une façon humoristique, mais souvent vrai, quoi, les défauts des Arabes, parce qu'il ne faut pas croire que je ne leur trouve que des qualités, qu'ils n'ont que des... tout le monde a beaucoup d'efforts à faire, mais eux aussi. Et donc, la moquerie, c'est une moquerie des dessins pour avancer. Et j'aime bien cette idée aussi d'aller dans tous les domaines, parce qu'on peut aller dans la spiritualité, mais je trouve que c'est bien aussi d'aller dans tous les domaines et que chaque fois, on rencontre ou on touche un public différent. Et bravo à l'autre fille.
Cette émission touche à sa fin. C'est passé très vite, Isabelle Sayer-Bodis.
Oui, mais avec vous, ça passe toujours très vite.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
De continuer d'avancer.
Merci, Isabelle Sayer-Bodis, d'avoir été l'invitée de Parcours.
Merci beaucoup.
C'était Parcours sur Radio Orient.